Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présenté par Sylvie Rosier.
Chaque année est célébrée le 10 octobre en lien avec l'OMS, Organisation mondiale de la santé, la journée mondiale de la santé mentale. La santé mentale est une composante essentielle de la santé et représente bien plus que l'absence de troubles ou de handicaps mentaux. 50% des personnes dépressives et 20% des schizophrènes ne reçoivent aucun traitement. Toutes les 40 secondes, une personne met fin à ses jours et cela touche de plus en plus les 15-25 ans. Plus de 21% des personnes souffrent d'un trouble anxieux ou d'une phobie, avec un pic pour les 25-44 ans. Les peurs s'intensifient. Peur d'être seule, d'être rejetée, de l'abandon. L'estime de soi est faible. Dépendance affective ou sociale. Et les relations toxiques augmentent. Violence physique et psychique. Notre société vit une crise, celle de la déréglementation et d'un manque de repères et de limites. Les crises politiques, économiques, environnementales et financières stigmatisent les peurs, les colères et l'anxiété. Des comportements excessifs se produisent, des phobies explosent, le mal-être est permanent et le développement de chaque être est confronté au regard et au jugement des autres. À bout de souffle, les professionnels de la psychiatrie réunis au sein de l'UNIOPS rappellent l'urgence d'adapter les moyens en santé mentale. 60%, c'est le nombre de lits en psychiatrie fermés entre 1976 et 2016. Ce n'est guère mieux du côté des postes en santé mentale. 30% sont aujourd'hui vacants. Malgré les nombreux appels à l'aide des professionnels du secteur, en sous-effectif et sous-financé depuis de nombreuses années, le message ne semble pas avoir été reçu par les pouvoirs publics. Alors que la vague du Covid s'est retirée, laissant apparaître une santé mentale généralement fragilisée, les besoins sont grandissants, alerte l'UNIOPS. D'après son rapport mondial sur la santé mentale publié en 2021, l'OMS relève une augmentation de plus de 25% des troubles anxieux et dépressifs depuis le début de la pandémie de Covid-19 à l'échelle mondiale. La situation est particulièrement inquiétante chez les enfants et les adolescents, affirme l'UNIOPS. Elle réclame aux autorités de prendre des mesures importantes et cela de toute urgence pour permettre l'accès à ces soins à toute personne qui en a besoin, à éviter l'épuisement professionnel. Elle souhaite aussi voir renforcer les moyens en matière de prévention en santé mentale et de lutte contre la stigmatisation.
Calade.
Ma radio.
L'info locale et régionale.
Nouveau, le musée L'Atelier du Charron, un témoin exceptionnel d'un métier artisanal à Saint-Véran, en Beaujolais, dans les Pierres Dorées. Un savoir-faire que fait revivre l'association éponyme auprès du public et des plus jeunes. L'Atelier du Charron, c'est aussi une histoire de famille.
Gérard Fayol, je suis fils de Charron. Il a été Charron déclaré, on va dire, de 1932 à 1968. Voilà, et l'idée est venue d'un musée... par rapport à son activité, et puis, puis quelque part c'est un hommage à sa personne, quoi. Et puis on a démarré vraiment l'association, donc on s'appuie sur une association qui s'appelle l'Atelier du Charron, et cette association elle est née le 16 janvier 2020 avec 6 personnes, et actuellement il y a environ 70 adhérents. C'est ce qui nous permet de structurer notre activité, de récolter des fonds pour le projet, et puis d'avancer dans la bonne direction, on va dire. Voilà.
On est à Saint-Véran.
Ouais.
Voilà, joli petit village des Pierres Dorées.
Voilà, de 1200 habitants, qui a beaucoup prospéré, puisque quand j'ai quitté le village en 81, il y avait 650, 670 habitants. Actuellement, il y en a 1200. Donc, c'est un village qui est relativement proche de Lyon, de Villefranche, bien sûr. Justement, je pense que le musée, là, à mon avis, est bien accueilli par la municipalité parce que c'est un point d'attraction, quoi.
Bien. Ouais. On va y aller ?
Ouais.
Allez, c'est parti. Bon, c'est facile d'accès, hein.
Voilà. Hop.
Très bien. Donc là, vous l'avez dit, hein, c'est un...
En fait, au départ, c'était une remise à bois. Donc, mon père était charron et il avait besoin de stock de bois pour travailler. Et là, il stockait son bois dans cette remise. Alors, c'est une remise qui était habillée de planches à l'extérieur, là, sur les murs extérieurs. Les planches qui étaient un peu ajourées, pardon, de façon à laisser passer l'air pour ventiler et sécher le bois de façon naturelle. Il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas de méthode artificielle pour sécher le bois, quoi.
Commençons par le début. Un charron, c'est quoi ?
Là, le charron, personne ne voit, là, mais le charron, il était capable de fabriquer ça, là. Ça, c'est un char un char donc à quatre roues, c'est des roues à rayons, et l'essentiel de la structure est en bois. Bon, il y a évidemment des pièces métalliques pour faire toutes les liaisons. La plus grosse partie de la construction est en bois. Donc, en fait, le charron, il fabriquait tout ce qui était destiné à la traction animale. Donc, des chars, des charrettes, des voitures à trotter, des corbillards, des calèches, des charrues. Et en fait, le charron, il avait un rôle indispensable au début du siècle dernier, ou même au milieu du siècle dernier, il avait encore un rôle indispensable. Tous les transports étaient liés au charronnage, puisque les gens étaient assis sur quelque chose qui était fabriqué par le charron. Et puis, il servait dans pratiquement tous les métiers, quoi. Évidemment, les viticulteurs, les agriculteurs, pour transporter le foin, pour transporter la paille, pour transporter plein de choses, quoi. Le plus délicat du charron, c'était la fabrication de la roue à rayon. Il faut savoir qu'une roue, il n'y a aucun artifice, c'est-à-dire il n'y a pas d'assemblage avec de la colle, avec des vis ou avec des pointes. Tout est assemblé et à la fin, c'est le bandage qui fait la liaison entre tout ça de façon complètement naturelle, quoi. Un vrai savoir-faire. Alors, il y en a même qui parlent de métier d'art, artisan d'art, voilà. Parce qu'en fait, alors mon père, il avait un adage, je sais pas d'où il tenait ça, mais en fait, il disait le charpentier fait fort, il fait des charpentes qui doivent être costauds. Le menuisier fait juste, il fait de l'ajustement, il faut pas que l'air passe entre ses fenêtres. Et par contre, le charron fait fort et juste, parce qu'effectivement, il fait très juste, mais il fait aussi très fort, parce que ce qu'il fabrique est amené à porter des charges importantes.
L'idée du musée est une visite pour tous, libre, mais aussi le souhait à l'avenir d'un outil éducatif pour les plus jeunes.
On a un projet, enfin c'est pas encore tout à fait au point, mais c'est à venir, c'est qu'on doit accueillir des classes d'enfants, plutôt primaires, entre 8 et 11 ans, avant la 6e, quoi. Et dans ce cas-là, on va faire un scénario de visite qui sera complètement différent du scénario adulte. Le scénario adulte, on accompagne les gens, on leur explique tout ce qui se passe. Par contre, avec les enfants, on va faire des ateliers. Et dans les ateliers, on va diviser la classe en quatre. On va faire quatre ateliers différents. On va les faire travailler, par exemple, sur les outils à bois, là, les outils qu'on vient de voir. On va les faire travailler, on va leur montrer ce que c'est que le travail du fer, la façon de procéder. On va leur montrer des vidéos. Il y a des vidéos qui montrent le travail du charron. Et puis le quatrième atelier sera à l'extérieur, dans la pentille, hein, qui jouxte le musée. Et là, on leur fera monter une maquette de roue. Alors une roue qui sera la taille d'une roue de brouette, comme on les faisait à l'ancienne, quoi. Donc ils vont tourner sur ces quatre ateliers différents.
Et pour conclure, ouverture du musée L'Atelier du Charron, musée associatif à Saint-Véran, dans les Pierres Dorées.
Le musée est ouvert donc du 15 avril au 31 octobre. Il est ouvert tous les week-ends, donc le samedi et le dimanche, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Par contre, on fait une visite guidée le matin à 10h et l'après-midi à 15h. Et puis après, les scolaires, c'est un peu différent. C'est pendant les jours d'école, c'est-à-dire c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, sur demande, parce que ça demande un peu plus de préparation et d'organisation. Mais sinon, tous les week-ends, du 15 avril au 31 octobre, quoi.
Michel Verrier est un auteur rhône-alpin. Il a plaisir à inscrire ses romans dans les milieux naturels des sites et paysages du patrimoine local du Beaujolais-Val-de-Saône. Il s'inspire également de rencontres d'habitants de la localité pour construire ses personnages. Le Cheval de l'espoir de Michel Verrier, paru aux éditions de Boré, ne tarit pas à la règle. Il est joint par téléphone.
Oui, ça me fait plaisir. En tout cas, je renie pas ni mes origines campagnardes, ni le fait que je vis à la campagne et puis que je préfère écrire des histoires qui se passent plutôt dans le terroir et dans le terroir campagnard que dans le milieu urbain. En fait, moi, c'est plutôt ma formation d'historien qui fait que j'aime fouiller un petit peu dans les archives locales, dans les archives des communes ou des récits que les gens peuvent faire, les anciens, des villages parfois. J'aime m'imprégner de ce patrimoine et puis de cette terre et voilà, en particulier de la région dans laquelle nous sommes. Même si moi, je ne suis pas originaire de cette région, c'est pour ça que j'ai appris à la découvrir et à l'aimer et à en parler, j'espère, pas trop mal, quoi.
Le récit de l'histoire du roman, Le Cheval de l'Espoir, repose sur une intrigue au travers d'histoires de vie.
En fait, pour que le lecteur y trouve un attrait, il faut à un moment donné qu'il y ait une histoire, une histoire dans laquelle le lecteur va s'imprégner ou va s'intégrer lui-même, et il va s'en imprégner pour essayer d'aller jusqu'au bout de l'histoire. En fait, on est tous un petit peu comme ça. Lorsque on découvre quelque chose, que ce soit dans un livre, que ce soit dans un film, que ce soit dans une pièce de théâtre, eh bien, on est toujours en train d'attendre la fin, peut-être, et puis de suivre le cheminement qui va aller jusqu'à cette fin. Alors, mon rôle d'auteur, c'est effectivement d'essayer d'intéresser le lecteur à suivre une intrigue, en le faisant participer aux choses de la région, au patrimoine de la région, à la vie des gens. Mais je crois qu'ils sont assez intéressés par l'intrigue elle-même, en espérant que ça se termine bien, quoi. Hein, ce qui est en général mon souhait. C'est ma façon d'être, c'est ma façon de faire.
Un roman riche de personnages tourmentés.
En fait, l'histoire de ce garçon, de cet enfant qui a été victime d'un accident, qui a laissé des séquelles importantes en lui. Et ce que j'ai aimé décrire, c'est l'environnement de cet enfant, et avec l'espèce d'aversion qu'on a contre lui-même, alors que le pauvre, personne ne lui en veut, bien entendu, mais on lui reproche peut-être certains excès de violence, ou peut-être, je ne sais pas, la façon de se comporter vis-à-vis des gens, et il va falloir que quelqu'un essaie de le comprendre, et essaie de le défendre, puis sans doute par chance, hein, en tout cas c'est ainsi que je vois la chose, un cheval va dénouer une partie de l'histoire et puis va essayer de faire en sorte que ce garçon retrouve une vie plus normale que celle dans laquelle il était hélas installé depuis une dizaine d'années. Quoi.
Un personnage d'une grande importance à quatre pattes. Placido est un personnage à part entière dans le livre.
Complètement, oui. Mais j'adore les chevaux. C'est-à-dire que des chevaux, j'ai écrit une vingtaine d'ouvrages. Une vingtaine, j'en écris 20 jusqu'à ce jour. Et dans tous mes ouvrages, il y a un cheval. Donc, alors plus ou moins, mais il y a un cheval. Et donc là, j'ai voulu en faire la pièce centrale, alors que parfois c'était des personnages annexes ou des personnages qui n'avaient pas une très très grande importance, en tout cas pas toujours. Mais là, cette fois-ci, il a eu une importance capitale, oui. Mm-hmm. Oui.
Et enfin, un roman qui exprime la conjugaison de tous les amours.
J'ai tenu à ça, c'est-à-dire que la vie des gens, c'est cela aussi. Hein. Ce sont des choses très simples parfois, là où le rôle des grands-parents vis-à-vis de leurs petits-fils, ou le rôle des parents vis-à-vis de leurs filles, et du malheur qu'elle a vécu, qu'elle est en train de subir. J'y tiens beaucoup, moi, à cela, c'est-à-dire la vie intrafamiliale, et puis le rôle que nous avons tous de pouvoir secourir les nôtres, puis secourir les autres. Voilà, j'y tenais beaucoup, on parlait des différentes formes d'amour. Oui, j'ai tenu à ce que, à essayer en tout cas, de les faire partager par les lecteurs, et que chacun va se retrouver dans un de ces éléments, que ce soit un amour paternel, fraternel, maternel, ou un amour tout simple entre deux êtres. Je trouve que, j'espère, se retrouver parmi ces amours-là.
Le cheval de l'espoir, roman de Michel Verrier, paru aux éditions de Bourri.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.